Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin, Guillaume Ménard et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier jour de notre série dédiée à l'économie de l'alimentation. Cette semaine, nous avons arpenté les rayons des supermarchés, interrogé l'avenir du modèle de la grande distribution et cherché comment nourrir une population mondiale en pleine croissance. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'industrie agroalimentaire et sur l'influence de ses lobbies. De nombreuses études scientifiques, menées entre autres par des chercheurs de l'INSERM, ont mis en évidence les liens entre la consommation d'aliments ultra transformés et les risques de cancer, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Des résultats contestés par la filière qui dénonce une stigmatisation des aliments industriels. C'est cette bataille d'influence entre scientifiques et producteurs que nous allons décrypter dans l'heure qui vient. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler du poids des lobbies de l'alimentation, nous accueillons aujourd'hui Annie Thébaumoni, sociologue, directrice de recherche honoraire à l'INSERM et auteure de La science asservie, publiée à la découverte en 2014. Avec nous également Bernard Pellegrin, journaliste indépendant, auteur de Sucre, enquête sur l'autre poudre, paru en 2017 aux éditions Thaïlandier. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera, comme chaque jour, des nouvelles de l'écho. Bernard Pellegrin et Annie Thébaumoni, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors un premier mot d'abord sur cette étude scientifique qui vient d'être publiée et qui a été menée par une équipe française de recherche en épidémiologie nutritionnelle. L'étude montre que la consommation d'aliments ultra transformés augmente les risques de maladies cardiovasculaires, en plus d'augmenter les risques de cancer et de diabète. Que vous inspirent ces résultats, Annie Thébaumoni ?
Écoutez, je dirais que ça... Ça ne vient que confirmer des tendances très fortes de cette industrialisation des aliments, de ces traitements par des produits que l'on sait toxiques, les perturbateurs endocriniens, les pesticides. On sait que l'alimentation est très contaminée. Il l'est d'autant plus que les aliments sont transformés. Donc, travaillant sur les cancers d'origine professionnelle et environnementale, il y a longtemps maintenant qu'on est inquiet sur cette transformation de l'alimentation, bien sûr.
Il faut souligner que ces produits qu'on appelle donc ultra transformés occuperaient près de la moitié des rayons des supermarchés. C'est une notion qui a été popularisée par un chercheur brésilien, Carlos Montero. Et ce qu'il faut aussi souligner, Bernard Pellegrin, c'est que cette étude de l'INSERM dont on parle, enfin qui a été entre autres faite par des chercheurs de l'INSERM, cette étude ne prouve pas de causalité, elle se contente de mettre en évidence un lien statistique significatif, parce que c'est particulièrement compliqué de mettre en évidence la causalité.
Bien sûr, vous indiquiez à l'instant que ces produits ultra transformés, ces aliments ultra transformés représentaient à peu près 50% dans un supermarché. Moi, quand je me suis intéressé au sucre, je suis arrivé à peu près à la conclusion que si on retirait tous les aliments vendus dans un supermarché qui contiennent du sucre caché, il en resterait 20% à peu près sur les étagères. Donc il y a un problème, de produits ajoutés qui sont pas forcément utiles, et puis il y a aussi un problème de communication, d'information du public. Il est à peu près impossible, s'agissant du sucre par exemple, de savoir, sauf avoir de très très bons yeux et à y passer beaucoup de temps, quels sont les sucres ajoutés, dans quelle proportion, etc. etc. Il y a de l'opacité, énormément d'opacité.
Il y a un enjeu important autour de l'information, mais ce qu'on voit avec les différentes études scientifiques qui ont été publiées ces dernières années, c'est que les aliments ultra transformés sont au cœur des préoccupations désormais des chercheurs, mais aussi des médecins nutritionnistes. Alors face à ce qui pourrait sembler être une offensive, comment les industriels réagissent à ces critiques? Écoutons la journaliste Stéphane Aurel, elle était l'invitée de La Grande Table sur France Culture le 30 septembre dernier.
John Hill, qui a créé un cabinet qui s'appelle toujours Hill & Knowlton, il a été sollicité par les cigarettiers dans les années 50, plus précisément en 1953, quand cette industrie s'est retrouvée confrontée à un problème assez majeur, qui est que son produit tuait ses clients. Et plutôt que d'en informer tout le monde, ils ont décidé d'organiser le doute par la manipulation de la science, et c'est John Hill qui a eu cette idée et qui a mis en place en fait toute une machinerie de manipulation de la science qui a pris des proportions assez impressionnantes et qui a servi de modèle, de matrice en fait pour énormément d'industriels, et ces stratégies sont aujourd'hui encore utilisées tous les jours par le lobby de l'alcool, le lobby des pesticides, le lobby du sucre, etc.
Annie Thébaumoni, en quoi consiste cette stratégie du doute qui, selon Stéphane Aurel, aurait été empruntée au lobby du tabac ?
Alors, c'est une stratégie qui a effectivement été mise en place par le lobby du tabac, qui d'ailleurs avait un slogan que un chercheur américain, David Michael, qui a été le responsable de la santé au travail dans l'administration Obama, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le doute est leur produit ». Et en fait, ça reprenait cette phrase de l'industrie du tabac qui disait le doute est notre produit, c'est la meilleure manière de retirer de l'esprit des gens ceux qui pourraient y entrer.
Et alors concrètement, quelle forme est-ce que cela
prend ? Alors, ça prend la forme suivante. Je vais prendre l'exemple de cette biologiste, Rachel Carson, qui a travaillé pendant des années comme biologiste et qui, à un moment donné, s'est rendu compte que le printemps devenait silencieux. Et avec toutes les connaissances qu'elle avait, elle a écrit un bouquin extrêmement important qui s'appelle donc « Le printemps silencieux », dans lequel elle démontre la toxicité des pesticides sur le vivant. Et en fait, en face, Monsanto et les autres industriels de l'agrochimie ont produit, avec des scientifiques, des études qui mettaient le doute sur Rachel Carson, alors que c'était elle qui avait les véritables résultats.
Les véritables informations. Alors justement, avant d'en venir à ces contre-études, je vous propose d'écouter Rachel Carson.
Depuis le milieu des années 1940, plus de 200 produits chimiques ont été fabriqués pour tuer des insectes, des herbes, des rongeurs et d'autres organismes qualifiés de nuisibles. Ils sont vendus par plusieurs milliers de marques différentes. Ces poudres et ces aérosols sont maintenant utilisés presque partout, dans les fermes, dans les jardins, dans les forêts, dans les maisons. Ces substances non sélectives tuent tous les insectes, nuisibles ou non. Elles font taire le chant des oiseaux, le bruit des poissons dans les torrents, recouvrent les feuilles d'une pellicule mortelle et persistent dans les sols. Et tout ça pour se débarrasser de quelques herbes, de quelques insectes. Comment peut-on croire que l'on puisse déverser tant de poison à la surface de la Terre sans y compromettre la vie ? Ces produits ne devraient pas s'appeler insecticides, mais plutôt biocides.
Voilà Rachel Carson qui publie donc en 1962 Le Printemps silencieux, dans lequel elle dénonce, je cite, « le flot continuel de produits chimiques nouveaux sortant des laboratoires, près de 500 par an aux États-Unis ». Alors il faut peut-être préciser, Annie Thébaumoni, c'est un livre qui paraît dans un contexte particulier, celui de la Révolution verte, à un moment où les rendements agricoles explosent dans un certain nombre de pays.
Alors, c'est effectivement important de revenir à cette époque où l'industrialisation gagne l'agriculture avec, en fait, une représentation, un slogan issu de l'industrie qui dit « pour augmenter les rendements, il va falloir utiliser des intrants ». Et, en fait, ils introduisent cela dans des pays comme le Mexique, comme l'Inde, avec des surfaces absolument gigantesques sur lesquelles ils vont tester de nouvelles variétés de blé, par exemple, ou de riz ou de maïs, En utilisant la chimie et en montrant que la chimie fait exploser les rendements.
Et de fait, la faim recule considérablement, par exemple en Inde, au Brésil.
Alors, moi, là-dessus, non, la faim ne recule pas. Parce que c'est la mise en place d'un système financier qui consiste à transformer l'agriculture en une source de profit, et exclusivement une source de profit. Pour avoir vécu au Brésil, au moment où il y a eu l'introduction du soja, les Brésiliens ne mangeaient pas de soja, n'utilisaient pas le soja. Au moment de la dictature militaire, à la fin des années 60, on a vu, après que ces fameuses nouvelles semences aient été testées au Mexique avec la fondation Rockefeller, on a vu au Brésil arriver, avec la bénédiction des militaires, d'énormes exploitations américaines. En fait, c'est les multinationales américaines qui se sont implantées, qui avaient même des couloirs d'exportation pour implanter le soja, transformant la population rurale en une population de travailleurs saisonniers qui vivaient dans des conditions absolument dramatiques, qui ont été affamés par ce système.
Et pourtant, on recevait hier le chercheur Bruno Parmentier, il nous disait que la faim avait quasiment disparu du Brésil. Vous ne faites vraiment aucun lien entre cette hausse des rendements et le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus faim au Brésil?
Alors, je crois que c'est un peu hâtif de dire que la faim a complètement disparu. Il y a deux phénomènes, en tout cas, c'est très complexe et je ne m'avancerai pas. Mais il y a un premier phénomène qui est l'urbanisation, parce que cette situation de la montée de l'agro-industriel a repoussé des foules entières vers les villes. Et c'est vrai que dans les villes, formellement, on ne meurt pas de faim, même si on est dans une misère noire. Parce que il y a... Et le deuxième phénomène, c'est quand même ce que Lula a fait pendant les années où il était au pouvoir pour lutter.
Alors, c'est la Bolsa Familia, toutes les aides, les redistributions.
Contre la faim. Et ceci dit, pour revenir à la Révolution verte, elle n'a eu de révolution que le nom. Parce que, en fait, ça a été une manière de mettre l'ensemble de l'agriculture et de l'agriculture d'exportation au service du profit, et exclusivement au service du profit. Et les rendements ont beaucoup baissé parce que, au bout d'un moment, l'épuisement de la terre, et en Inde, ça a été un véritable drame, parce que les agriculteurs se sont suicidés avec la perte de rendement et l'endettement qu'ils avaient vis-à-vis de l'agrochimie.
Mais alors, ça a été un argument qui a été beaucoup mobilisé par l'industrie agrochimique, notamment par Monsanto, qui a pointé les progrès de la lutte contre la faim, contre le paludisme. Quelles ont été les réactions des industriels de la chimie à l'offensive de Rachel Carson, Annie Thébaumoni?
Alors, les industriels ont fait ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est-à-dire que ils ont commencé par disqualifier son message, en utilisant le fait que c'était une femme.
Elle a été qualifiée d'hystérique.
En plus, vraiment avec des propos absolument orduriers, il n'y a pas d'autre mot. Et alors qu'elle était en train de mourir d'un cancer du sein. Il faut quand même... se souvenir de ça. Et ensuite, ils ont réussi à mobiliser ce que font d'ailleurs beaucoup d'industriels, les organisations internationales. Par exemple, ils ont considéré que l'interdiction du DTT aux États-Unis, donc un pesticide qui permet de lutter contre les moustiques et donc contre le paludisme, cette interdiction était au détriment de la lutte contre le paludisme dans les pays d'Afrique, d'Asie, etc.
Et ce n'était pas le cas.
Comment ?
Et ce n'était pas le cas.
Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est une manière particulièrement perverse, je dirais, de disqualifier le message sur la toxicité de produits. Et en fait... on a vu la même chose par rapport à l'amiante. Quand on a eu cette lutte pour interdire l'amiante, les industriels ont dit « mais c'est le logement social ». Comme si le logement social dépendait de l'amiante. Eh bien, là, c'est la même chose.
Je me tourne vers vous, Bernard Pellegrin, parce que l'industrie du sucre, sur laquelle vous avez enquêté, offre aussi un bon exemple de cette stratégie du doute. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler dans quel contexte la première organisation de lobbying pro-sucre au monde, la Sugar Research Foundation, s'est constituée aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale?
Alors, Big Sugar, ça s'appelle. J'aime bien parce qu'il y a un côté Big Brother dans le Big Sugar. Ça se constitue en réaction, on est en pleine guerre effectivement, aux directives du gouvernement américain qui, face à une nécessité d'économie pour l'effort de guerre, dit aux gens « mangez moins de tout et notamment du sucre ». Et donc un lobby se constitue pour faire en sorte que... les ventes progressent. Ce qui est intéressant dans le lobby du sucre, c'est que il se développe vraiment aux États-Unis à partir du lobby du tabac. Parce qu'au bout d'un moment, évidemment, le lobby du tabac a beaucoup de mal à faire croire que fumer c'est bon pour la santé, que c'est juste un loisir. Le fameux cowboy de Marlboro qui meurt d'un cancer, etc. Et les grands lobbyistes se tournent vers le sucre. Il faut peut-être se souvenir comme ça pour vos auditeurs d'un petit fait historique qui est quand même pas inutile. C'est que le marketing en général et la communication politique ont été inventés par un monsieur qui s'appelait Edward Burns, qui par ailleurs était le neveu, à double titre d'ailleurs je crois, de Freud. Et ce monsieur écrit en 1928 un livre qui s'appelle « Propaganda ». Et « Propaganda » qui d'ailleurs inspire un peu des gens comme Goebbels dans leur penser sur la communication politique, sur la propagande, mais jette les bases du marketing. Et c'est lui notamment qui est à l'origine de la montée en puissance de Lucky Strike et qui fait en sorte notamment que les femmes américaines puissent fumer librement.
Et alors en quoi l'industrie du sucre va-t-elle reprendre les codes, les méthodes de l'industrie du tabac ?
Il n'est plus possible de défendre le tabac et les lobbyistes du tabac se jettent massivement sur le sucre et vont faire du sucre un des maux principaux de la civilisation américaine à travers tout ce qu'on sait, hein, le soda, les crèmes glacées, le sucre omniprésent. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des décennies, au fur et à mesure évidemment que le sucre va être pointé du doigt, il y a un bras de fer qui s'installe entre le lobby du sucre et le lobby du gras.
Et le lobby les du deux sucre se rejettent gagne. La responsabilité voilà. Des maladies cardiovasculaires et autres.
Et le lobby du sucre et le lobby du sucre dit non mais si vous êtes gros, chers Américains, c'est parce que vous mangez trop de produits gras. Et il y a même une campagne de pub dans les années 70 qui dit pour maigrir, mangez du sucre. Donc il y a cette espèce de bras de fer et les grands lobbyistes qui sont tous attachés à des monstres de l'agroalimentaire comme Coca-Cola, comme Kellogg's, comme plein de grandes entreprises américaines mondiales vont gagner la partie sur le gras.
Et au début des années 70, le sénateur démocrate George McGovern porte un sérieux coup à l'industrie du sucre en commandant une étude qui prouve le lien entre la consommation de sucre et le diabète et les maladies cardiovasculaires. Alors, quelle est, à ce moment-là, la réaction des industriels, Bernard Pellegrin? Ça passe à la fois par la communication, mais aussi par des contre-études scientifiques?
Alors, d'abord, il faut souligner que, d'après ce qu'on sait, le lobby du sucre aux États-Unis sait depuis longtemps, par des études secrètes, cachées, que le sucre a une incidence sur la santé, et notamment s'agissant des maladies cardiovasculaires.
Comment est-ce qu'on le sait?
On le sait parce que des journalistes, notamment un journaliste du New York Times, a beaucoup enquêté sur toutes ces choses et a fait remonter un certain nombre d'enquêtes qui avaient été faites de façon, encore une fois, clandestine et qui montraient que le lobby du sucre, qui avait besoin évidemment de savoir vers quoi il pouvait être attaqué éventuellement, avait fait faire des études et ces études avaient rendu les conclusions comme quoi, voilà, le sucre associé au gras, certes, mais le sucre était... potentiellement dangereux pour la santé, notamment pour les maladies cardiovasculaires. Alors après, s'agissant de la campagne de McGovern, il y a tout au long des années 60, 70, 80, un mouvement de yo-yo entre les gens qui dénoncent le sucre aux États-Unis comme un véritable problème de santé publique, ce qu'il est. Tout le monde sait ou a déjà vu aux États-Unis, dans les rues des grandes villes, des gens très, très, très obèses. Voilà. Donc, il y a tout ce mouvement anti et le lobby du sucre, à chaque fois, arrive à trouver la parade. La parade, par exemple, ça a été, toujours selon un certain nombre d'enquêtes journalistiques, de démontrer à travers des enquêtes scientifiques que l'aspartame, qui est un édulcorant dont le principe est que c'est vide de toute calorie, et je ne suis pas là en train de ici pour défendre l'aspartame, mais pour démontrer que l'aspartame était bien plus dangereux que le sucre. Donc il y a à chaque fois des sortes de correctifs qui sont apportés, voilà, et qui font que le sucre revient en grâce. Et puis, bon, alors dans les pays occidentaux, aujourd'hui, on peut dire que, grosso modo, les gens se sont fait une religion sur le sucre. Mais les choses sont très différentes dans le reste du monde, et moi j'ai des amis en Thaïlande qui me racontaient qu'il y a ne serait-ce que 20 ans, grosso modo en Thaïlande, personne ne mangeait de sucre. Et aujourd'hui, les mères de famille mettent du sucre sur les pâtes des enfants.
Alors, n'allons pas trop vite en besogne. Avant d'arriver à aujourd'hui, il faut d'abord expliquer comment, effectivement, un certain nombre de contre-études vont jusqu'à démontrer l'efficacité du sucre pour accompagner un régime. Et le résultat, c'est que ce sont les industriels du sucre qui semblent remporter la bataille.
Listen, there's nothing wrong with the Coke you get at McDonald's. The problem is the cup. It's too small. For about the same price, 7-Eleven's Big Gulp, well, gives you the freedom to enjoy a bigger Coke, 45% more. And if you prefer Pepsi, they don't have it. But 7-Eleven's Big Gulp gives you another kind of freedom. Freedom of choice.
America likes the freedom of 7-Eleven. Le problème du gobelet, c'est qu'il est trop petit. Une publicité de 1982 pour le Big Gulp, que l'on peut traduire par grande gorgée. Il s'agit d'un soda à emporter de presque un litre. Dans les années 80, Bernard Pellegrin, on peut dire que l'industrie du sucre est au sommet de sa puissance.
Tout à fait. Et il y a ce Big Gulp, mais il y a des tas d'autres grandes chaînes de fast-food qui vont lancer aussi des tailles de gobelets, des tailles de soda absolument monstrueux pour que ce qui pouvait éventuellement être perdu par une désaffection soit regagné par beaucoup plus de consommation à chaque fois. Bon, les États-Unis, on le sait, c'est un pays XXL, hein, donc plus c'est gros, mieux c'est. Mais les lobbyistes jouent beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais la guerre entre les lobbyistes et puis les gens soucieux de santé publique aux États-Unis est extrêmement féroce dans ces années-là. Par exemple, il y a un rapport officiel qui s'alarme sur la situation de santé publique liée au sucre et qui préconise de limiter la consommation du sucre. Donc c'est possiblement une réglementation qui va s'installer aux États-Unis, et les lobbies de Big Sugar parviennent, après des semaines de guérilla, à faire supprimer le verbe limiter pour le remplacer par modérer.
Alors on voit effectivement le vocabulaire qui importe fortement, et en l'occurrence au milieu des années 80, la Food and Drug Administration, l'agence américaine chargée des denrées alimentaires et des médicaments, conclut qu'il n'y a pas de preuve définitive que le sucre consommé au niveau actuel représente un danger pour la santé publique. Au milieu des années 80, voilà où on en est, Bernard Pellegrin.
Absolument, oui. Et le bras de fer est encore en faveur des lobbyistes du sucre, et notamment, bien sûr, parce que la vérité, c'est quand même les sodas. Hein. Le vrai problème aux États-Unis, le cœur du problème, c'est les sodas hyper sucrés.
Annie Thébaumoni.
Alors, moi, ce qui me frappe en vous écoutant, Bernard Pellegrin, c'est le parallèle à faire avec les mécanismes, ce que font les lobbies dès lors que des autorités de santé publique décide qu'une réglementation va devenir nécessaire. On le voit pour le plomb, on le voit pour l'amiante, on le voit pour les pesticides et la chimie.
Cela rappelle les Monsanto Papers qui avaient été révélés par Le Monde aussi, et tous ces travaux autour du glyphosate.
Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, lorsque la réglementation est sur le point d'être adoptée, et on le voit en Europe pour les perturbateurs endocriniens, on le voit pour le fameux Roundup glyphosate, etc. Il y a toujours la possibilité pour les lobbies de trouver comment contrecarrer et maintenir le doute. Or, et c'est comme chercheur en santé publique, je le déplore, le doute profite aux industriels et non pas aux victimes. Mmh. On est très très loin d'un principe de précaution.
La contre-offensive se fait effectivement avec une force de frappe particulièrement importante. Alors on va voir que en Europe la situation est un petit peu différente, que le rapport de force n'est pas toujours au bénéfice des industriels du sucre, mais aux États-Unis, ce qu'on a constaté, Bernard Pellegrin, c'est que les tentatives de certaines villes américaines de taxer, par exemple, les boissons sucrées n'ont pas du tout abouti.
Non, à chaque fois, il y a ce système qui se met en place, qui fait que on essaye de contrecarrer ces politiques municipales ou régionales ou éventuellement fédérales pour faire en sorte que la liberté, entre guillemets, parce que souvent aux États-Unis, ce qu'on oppose aussi, c'est la liberté du consommateur. Après tout, si le consommateur veut boire un litre de Coca-Cola en mangeant un hamburger, c'est son droit. Et donc, souvent, ce principe de liberté est mis opposé au principe de santé publique.
Mmh. Alors, on va voir quelle forme le lobbying des géants de l'alimentation prend aujourd'hui en France et en Europe. On en parle dans un instant.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man.
Sugarman de Sixto Rodriguez sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho. Bernard Pellegrin et Annie Thébomoni sont toujours avec nous pour parler du poids des lobbies de l'alimentation.
La parole est à Madame Laurence Abeille.
Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale.
Allez,
et
s'il
porte
vous plaît, on
sur
l'accord la
récemment conclu avec le lobby de l'industrie sucrière représenté par le CEDUS, le Centre d'études et de documentation du sucre. L'éducation sanitaire et nutritionnelle est une priorité de notre politique de santé et cette mission incombe uniquement à l'État et aux organismes publics. Les informations diffusées par le CEDUS ne sauraient être objectives puisque le seul rôle d'un lobby est de défendre ses propres intérêts et en l'espèce au mépris des besoins nutritionnels des enfants.
Merci Madame, la parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale.
Je ne peux pas vous laisser dire, car c'est totalement inexact, même si ça devient une mode, par rapport à l'éducation nationale et un mépris à l'égard de ses enseignants, que le programme nutritionnel serait traité par les industries du sucre. Au contraire, ce programme est entièrement maîtrisé, évidemment, par l'éducation nationale, et la convention précise que la mission d'information qui est celle du centre de documentation du sucre doit se plier à toutes les dispositions du programme national nutrition santé et que les documents et outils pédagogiques diffusés doivent d'abord avoir obtenu le logo du PNNS qui est, comme vous le savez, indépendant.
Voilà, on entendait d'abord la députée Europe Écologie Les Verts, Laurence Abeille, interpeller le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. C'était le 12 février 2014. Alors, quel est ce centre d'études et de documentation du sucre dont parle Laurence Abeille, Bernard Pellegrin? Comment est-ce qu'il est apparu d'abord?
Alors, précisons juste que la coopération avec l'Éducation nationale n'a pas eu beaucoup d'avenir quand même et s'est arrêtée assez rapidement parce que la ficelle était quand même assez grosse. Alors, le sucre en France, c'est une affaire de betterave. Hein. C'est Napoléon qui décide, parce qu'il y a un blocus qui empêche le sucre des Antilles de venir en France dans les guerres avec les Anglais, qui décide de développer, de demander à ses scientifiques de développer un sucre à partir d'une plante locale. Et la sélection se porte sur la betterave, qui est la plus utile. Et à partir de là, se développe une industrie sucrière betteravière, qui fera d'ailleurs de la France un des principaux pays sucriers au 19e mais au début du 20e siècle. Et dans les années 30, ces gens, qui sont assez puissants, qui sont même très puissants, se regroupent et créent une sorte de syndicat professionnel qui se transforme évidemment en lobby, ce lobby devenant ce CEDUS dont on vient de parler.
Et en l'occurrence, Laurence Abeille dénonce ici ce partenariat conclu en 2013, effectivement, entre l'Éducation nationale et le CEDUS. Alors, comment expliquer que ce partenariat ait eu lieu? Et effectivement, rappelez-nous dans quel contexte il a finalement été supprimé, Bernard Pellegrin?
Je ne saurais pas dire qu'il a été supprimé. Je pense qu'il est mort un petit peu comme ça, de sa belle mort, parce qu'on a bien senti que ça ne serait pas tenable. Alors, le CEDUS, c'est un type de lobbying français qui n'a rien à voir avec les lobbying américains, c'est-à-dire que nous, on fait ça à travers un petit peu les deux piliers de la civilisation française, entre guillemets, c'est l'éducation et le bien manger. Voilà. Donc, si vous allez sur le site du CEDUS, vous allez trouver des conseils aux enseignants pour que du matériel pédagogique, s'ils le souhaitent, pour qu'ils puissent parler à leurs élèves du sucre, et puis vous allez trouver des recettes. Vous allez trouver des grands chefs qui parlent du sucre en des termes qui sont des termes de plaisir, de gastronomie, etc.
D'où l'idée d'animer la semaine du goût.
Exactement.
Pour les élèves.
D'où l'idée d'animer la semaine du goût. L'analyse est bonne, était bonne. C'est de dire en France, on peut arriver à avoir un impact, faire pression à travers cette idée que le sucre, c'est le goût, le sucre, c'est le plaisir, etc. etc.
Alors, vous dites que les méthodes entre le CEDUS et la Sugar Association aux États-Unis ne sont pas les mêmes, mais alors est-ce qu'il n'y a pas aussi en France cette volonté de créer des études? Il y a un comité scientifique qui a été créé, c'est l'Institut Benjamin Delessert, créé
c'est
par le CEDUS. Est-ce que la méthode n'est pas la même sur ce plan-là, Bernard Pellegrin?
Elle est un peu la même à des échelles radicalement différentes, c'est-à-dire qu'elle implique qu'on mouille un petit peu les scientifiques et qu'on obtiennent d'eux qu'ils introduisent ce que vous disiez à l'instant, madame, c'est-à-dire la culture du doute. Après tout, on nous dit que c'est pas bon, mais des scientifiques nous disent que non. Pour prendre par exemple l'exemple du soda, un chercheur ayant pignon sur rue écrit dans une revue publiée par le CEDUS que les sodas sucrés, en dessous de 2 litres par jour, il n'y a pas de problème. 2 litres par jour.
Alors même qu'il y avait une étude qui était parue quelques années plus tôt, qui était parue dans la revue Nature en 2012, et qui associait le sucre à des dangers pour la santé, comme le tabac, comme l'alcool. Annie Thébaumoni, on voit ce mécanisme toujours se mettre en place entre scientificité et industrie.
Alors, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. C'est d'une part le fait que les deux piliers dont vous avez parlé, éducation et puis représentation de l'alimentation, ça renvoie à une forme d'idéologie dominante en santé publique qui est que c'est l'individu qui est responsable de sa santé. Et les industriels ont remarquablement su comment instrumentaliser cela.
Ce n'est pas de notre faute si vous mangez trop de sucre, et ce n'est pas de notre faute si vous ne savez pas vous servir d'un désherbant,
voilà.
Par exemple.
Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours la faute du producteur ou du consommateur, et en partant de là, c'est une manière de complètement retirer la responsabilité des déterminants économiques qui sont présents.
Il faut dire justement que les intérêts économiques derrière l'industrie agroalimentaire sont particulièrement importants. C'est ce qui explique la frilosité peut-être des pouvoirs publics vis-à-vis de cette industrie.
Alors, c'est pas seulement vis-à-vis de l'agro-industriel, c'est-à-dire que les intérêts sont extrêmement puissants, que ce soit l'agroalimentaire, l'agrochimie, l'industrie chimique dans son ensemble, l'industrie métallurgique, etc. C'est-à-dire que chaque industrie crée son lobby. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est ce rapport aux scientifiques, c'est-à-dire qu'ils parviennent à instrumentaliser, y compris une discipline entière comme l'épidémiologie, dans cette stratégie de doute.
Et c'est lié au fait que, face à cela, les financements publics pour la recherche sont insuffisants.
C'est lié au financement public, mais c'est lié aussi aux caractéristiques de cette discipline qui va considérer qu'il lui faut des résultats, le fameux statistiquement significatif, qui vient d'ailleurs d'être remis en cause par 800 statisticiens au niveau mondial dans un article assez remarquable dans la revue Nature il y a quelques mois. Mmh. Et en fait, les chercheurs se retrouvent en quelque sorte instrumentalisés, même quand ce sont des chercheurs qui sont sincères dans leur travail.
Bernard Pellegrin, vous vouliez réagir ?
Non, je voulais ajouter quelque chose concernant le sucre en particulier, c'est la dimension addictive du produit tout de même. Il y a une particularité au sucre, bon, qui ne tient pas qu'au sucre, c'est vrai aussi pour l'alcool, pour le tabac, mais le sucre, a priori, jusqu'ici, n'était pas dans la même catégorie que l'alcool ou le tabac. Or, aujourd'hui, on sait que le sucre déclenche des processus d'addiction qui sont comparables à certaines drogues et qui font que, et là c'est tout de même assez grave, un certain nombre d'industriels ou un certain nombre d'industries, pour ne stigmatiser personne, jouent sur cette addiction. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple concret à l'autre bout du monde, les aborigènes d'Australie, il y a 50 ans, consommaient l'équivalent d'un morceau de sucre par an. Aujourd'hui, sous un véritable déluge de sodas tels que Coca et compagnie, c'est parmi les aborigènes d'Australie sont parmi les plus gros consommateurs, au point que le gouvernement australien a dû mettre en place des programmes de santé publique spécifiques pour expliquer aux gens comment cuisiner ou comment faire pour ne plus utiliser trop de sucre.
Et je crois que c'est en Australie qu'un certain nombre de personnalités se sont mobilisées justement pour qu'une taxe soda apparaisse.
Alors, ça, il y en a eu dans plusieurs pays, mais tout à fait.
Mais justement, en France, vous parlez de l'influence du lobby du sucre, Bernard Pellegrin, mais en France, il y a eu cette taxe soda a été créée. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Cette mesure constitue tout de même une vraie avancée.
Ça constitue une vraie avancée, même si elle n'est pas déterminante. Il y a plusieurs pays dont la consommation de sucre est beaucoup plus importante qu'en France, parce qu'il faut quand même signaler que les Français ne consomment pas énormément de sucre. Mais il y a beaucoup de pays où ça a été introduit. Je pense par exemple au Mexique, où finalement les résultats sont un petit peu décevants. Mexique, quand même, pays où le prix d'une bouteille de Coca est inférieur au prix d'une bouteille d'eau minérale. Mmh.
Hein. Mais on peut dire un bon point pour la France et sa taxe soda, Annie Thébaumoni.
Moi, je suis très ambivalente là-dessus, parce que, cette sanction-là ne change rien. Je dirais, ça pénalise effectivement le consommateur, mais le gouvernement, à travers ça, enfin l'État français, ne prend pas ses responsabilités sur la nécessité, en termes de santé. D'aider justement les consommateurs. Et ce n'est pas le consommateur qu'il faut sanctionner, c'est les industriels, quelle que soit l'industrie. Et l'industrie du sucre, c'est cette industrie qui aurait dû être freinée dans un certain nombre, et notamment dans les fameux aliments transformés. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une interdiction de mettre du sucre dans tout aliment transformé qui ne justifie pas de cette utilisation.
Alors on est encore loin de l'interdiction, mais il existe quand même depuis 2017 un système d'étiquetage intitulé Nutri-Score en France, qui note la qualité nutritionnelle des aliments avec un code couleur qui va du vert au rouge. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, Bernard Pellegrin ?
Bah, ça va plutôt dans le bon sens, évidemment. Plus c'est lisible par le consommateur, mieux c'est. Parce que c'est ça la véritable difficulté. C'est quand même que le consommateur n'a accès à peu près à aucune information sur la quantité énorme de choses qui sont à mettre en doute dans l'alimentation qui est la nôtre aujourd'hui.
Et d'ailleurs, on a vu le développement d'applications comme Yuka qui permet justement de donner la valeur nutritive des aliments.
Et donc, ça va dans le bon sens. Après, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de gens quand même qui ont fait... leur expansion sur l'introduction de produits qui n'étaient visiblement pas destinés pour le bien du consommateur et qu'il faudrait peut-être s'en préoccuper aussi.
Alors le problème de Nutri-Score, c'est que ce n'est pas obligatoire en France, donc c'est aussi l'un des problèmes qui est souvent soulevé. Et ça a été inspiré des Britanniques qui ont été précurseurs, je crois, avec leur système de feux tricolores.
Feux tricolores contre lesquels, par exemple, et on pourra venir peut-être dans un instant au groupe de pression auprès de l'Union européenne, qui eux là sont de taille américaine, feux tricolores qui ont été combattus avec très grande violence par les groupes de pression à Bruxelles, notamment par Nestlé, qui ne voulait pas en entendre parler.
Et justement, l'UFC Que Choisir a récemment lancé une pétition avec 6 autres associations européennes de consommateurs pour demander à la Commission européenne de généraliser le Nutri-Score, qui, je le précise, en France est obligatoire, mais uniquement sur les supports publicitaires en France depuis quelques mois. Alors à quoi il faut s'attendre, Bernard Pellegrin? On a l'impression que la mobilisation est aujourd'hui plus importante des associations de consommateurs.
Oui, parce que je pense que s'agissant du sucre, je ne parlerai pas pour autre chose, l'affaire est un peu entendue dans l'esprit des consommateurs. Et comme toujours, dans une économie de marché, une économie capitaliste, au bout d'un moment, le producteur cherche où est son intérêt. Et si son intérêt, c'est de mettre moins de sucre, parce que les consommateurs sont là et non pas dans le trop de sucre, il va aller vers le moins de sucre. Donc il y a aujourd'hui des marques qui commencent à parler, à communiquer, même à faire un peu de storytelling, comme on dit, sur le fait que peu à peu, ils retirent du sucre parce que c'est bon pour le consommateur. Le problème, c'est que la planète sucre s'est considérablement mondialisée, considérablement élargie, et qu'aujourd'hui, en Afrique, dans les pays émergents, dans certains pays du Moyen-Orient, la quantité de sucre proposée aux consommateurs est absolument considérable.
Alors, en revanche, parmi peut-être les mesures qui avancent moins, on peut citer le fait que les tentatives d'interdiction de la publicité pour des aliments de mauvaise qualité ciblant les enfants ont été régulièrement mises en échec. Là-dessus, on n'y arrive pas, Bernard Pellegrin ?
On n'y arrive pas parce que les lobbies sont très très puissants. Et encore une fois, par exemple, parce que les choses se décident quand même très largement maintenant au niveau de l'Union européenne, quand même à Bruxelles aujourd'hui, on dénombre 62 organisations dont le but affiché est de faire la promotion et de défendre le sucre contre ce que pourrait décider la Commission ou le Parlement.
Sur le poids de ces lobbies au niveau européen, Annie Thébaumoni.
Alors c'est évident que ils ont vraiment déplacé leur centre de gravité vers Bruxelles, parce qu'ils savent très bien que les réglementations sont élaborées à ce niveau-là. Et ils font le siège de la Commission, et participant à un certain nombre d'associations de lutte contre l'amiante, plus généralement contre les risques industriels, nous savons qu'il est beaucoup plus difficile pour nous, que ce soit les consommateurs, les travailleurs sont actifs sur ces terrains-là, d'obtenir un rendez-vous à la Commission que les lobbies qui sont dans les couloirs en permanence. Et alors, je voulais revenir quand même sur cette question de l'information. Parce que Rachel Carson disait ceci, l'obligation de subir nous donne le droit de savoir. L'obligation de subir la production que ce soit le sucre, que ce soit les pesticides, nous donnent le droit de savoir et l'information. Je dirais, l'obligation d'information de la part des pouvoirs publics est une responsabilité énorme. Et à l'heure actuelle, au lieu de faire cette information, il renvoie le consommateur à lire des pastilles, à lire des notices, alors que quand vous faites vos courses, évidemment, vous le faites... Vous le faites pas.
Mais vous êtes tout de même favorable à un mécanisme comme le Nutri-Score qui utilise un code couleur et qui permet de savoir assez rapidement la qualité nutritionnelle d'un aliment.
Ah bah je préfère un Nutri-Score visible ou mais il faut que ce Nutri-Score soit expliqué et expliqué avec suffisamment de détails pour que les gens comprennent. Et en fait, ce qu'on aperçoit à l'heure actuelle, c'est que cette information n'est pas donnée. Et pour revenir au lobby, l'exemple flagrant aujourd'hui sur la manière dont ils peuvent imposer des études fausses, des études qui viennent semer le trouble et semer le doute, c'est l'exemple du fameux glyphosate. Où le Centre international de recherche sur le cancer a tout un mécanisme pour déterminer qu'à un moment donné, il classe une molécule, un produit, une substance cancérogène. Le CIRC classe le glyphosate cancérogène.
Et là, il y a une contre-offensive.
Et la contre-offensive vient de l'EFSA. Et l'EFSA, c'est l'organisme européen sur l'alimentation et sur la santé qui... s'appuyant sur des études faites par les firmes industrielles, dit on n'a pas de preuves. Ce qui est faux, mais qui a conduit, en fait, à empêcher, et au niveau européen et au niveau français, l'adoption d'une réglementation.
Et donc il y a la partie scientifique, et puis il y a aussi la partie juridique. Ce sont aussi des organisations qui peuvent mobiliser des avocats de façon assez massive, Annie Thébaumoni.
Alors, ils mobilisent évidemment toutes les ressources. Lorsqu'il s'agit d'adopter une réglementation, c'est pas tant les avocats qui sont importants, c'est le fait que ils peuvent influer avec une fausse expertise scientifique sur les résultats des réglementations. La directive européenne sur les cancérogènes, lorsqu'il a été décidé enfin de la réviser, parce que ça faisait 25 ans qu'elle ne l'avait pas été, le groupe de travail qui a été chargé de ça était composé de 22 experts scientifiques, etc.
Mais qui avaient des liens avec...
Sur les 22, il y en avait 15 qui étaient soit salariés, soit impliqués dans les cabinets de relations publiques de l'industrie. C'est pas sérieux.
Alors, je parlais tout à l'heure de la nécessité économique qu'il y a évidemment derrière tout ça, le poids économique de l'industrie agroalimentaire notamment, et tous les emplois que ça suppose. Et ce qu'il faut dire, c'est que le poids économique que la filière du sucre, traverse actuellement une mauvaise passe en France.
La Thaïlande ou l'Inde, à eux deux, ont mis quasiment 15 millions de tonnes de sucre supplémentaire alors que ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effondrement des cours. En plus, au niveau européen, on s'est retrouvé avec un surplus de production de près de 3 millions de tonnes de sucre au niveau européen qu'il a fallu exporter.
La sucrerie existe depuis 1836, donc c'est la plus vieille sucrerie de France. Et donc, faut savoir que la Limagne, c'est la zone betteravière la plus ancienne de France.
C'est franchement violent quand on vous demande de faire un effort conséquent pour augmenter une culture, d'investir. Mais c'est un investissement important, oui, et moralement, quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir demain ? On est vraiment dans le flou sur toutes ces questions-là, quoi.
Bernard Pellegrin, la chute des prix du sucre a plongé la filière dans la crise. Il faut s'attendre, selon vous, à ce que les pouvoirs publics relâchent un peu la pression sur l'industrie du sucre en France et peut-être en Europe ?
Et d'abord, il n'y a plus de quotas. Donc déjà, c'est moins au gouvernement ou aux autorités publiques, elles n'ont plus trop la possibilité d'intervenir.
Alors expliquez-nous, c'est la fin des quotas européens. Qui est aussi en cause dans cette chute des prix.
Tout à fait.
Il y a eu une augmentation très forte de la production.
Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, la consommation de sucre s'est largement déplacée et la production avait anticipé ce déplacement. Le plus gros producteur de sucre au monde, c'est le Brésil. On vient de citer la Thaïlande. Il y a énormément de pays dits émergents qui aujourd'hui sont devenus des très gros consommateurs producteurs de sucre et qui évidemment mettent à mal, comme dans d'autres secteurs économiques ou de l'industrie, des vieilles industries. On pourrait faire presque une comparaison entre le sucre et la sidérurgie, enfin je veux dire toute proportion gardée évidemment. Donc bien sûr c'est tout à fait dramatique. On retrouve évidemment l'habituel conflit entre les nécessités sociales et les nécessités aussi environnementales ou de santé publique.
Voilà, c'est... L'État doit arbitrer, Annie Thébaumoni, entre ses nécessités environnementales et ses nécessités sociales.
Alors, moi, je voudrais revenir sur cette histoire d'emploi parce que, en fait, le seul produit qui était interdit en France et en Europe, c'est l'amiante. Et les industriels avaient prédit que ce serait une catastrophe au niveau de l'emploi, une catastrophe économique. Il n'en a rien été. Parce que les opérateurs économiques, ils anticipent de toute façon si on les met au pied du mur.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est vraiment une menace brandie par les industriels.
C'est une menace brandie de façon abusive par les industriels. Et moi, je dirais qu'actuellement, compte tenu de ce qu'on sait sur l'industrie des pesticides, je suis pour une interdiction immédiate des pesticides, comme on l'a fait pour l'amiante, avec un délai d'application, mais avec un accompagnement des politiques, de la part des politiques vis-à-vis des agriculteurs, pour que les agriculteurs puissent faire cette transition.
Mais peut-être que la question se pose davantage pour une industrie qui connaît des difficultés économiques, comme l'industrie du sucre, justement.
Alors, l'industrie du sucre, parlons-en. Quand au Brésil, le plan alcool, parce que le sucre, la production du sucre, n'est pas allée vers l'alimentation, c'est allée vers le carburant. C'est toute l'histoire des biocarburants. Et en fait, l'industrie du sucre au Brésil, les énormes plantations de sucre ont contribué de façon énorme à une production de la faim, qui dure encore aujourd'hui, puisque ça a chassé totalement la population rurale de toutes ces régions dans lesquelles ils ont implanté le plan alcool.
Et est-ce que vous comprenez éventuellement qu'en Europe, pour une industrie qui aurait des difficultés particulières, on puisse relâcher un petit peu à la pression? Est-ce qu'il y a un arbitrage, aussi difficile soit-il, à faire sur ce point?
Alors, moi, c'est là-dessus, je pense que si une industrie se trouve sinistrée par une décision de santé publique, c'est la responsabilité de cet industriel ne s'arrête pas seulement à prendre acte de cette difficulté, mais il y a une responsabilité sociale sur les questions d'emploi en lien avec les pouvoirs publics. Et je suis convaincue que, au lieu d'opposer emploi et santé, si on considérait que systématiquement les industriels doivent penser leur reconversion, pas la leur, mais celle de la collectivité, du collectif de travail qui a permis leur richesse, on n'en serait pas là aujourd'hui.
C'est la question de la responsabilité sociale qui a été inscrite dans la loi Pacte. On a pu en parler à l'occasion avec toutes les limites que cela suppose. Alors on arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être, Bernard Pellegrin, sur l'influence de cette industrie agroalimentaire. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est une influence qui reste forte et qu'en même temps, il y a une montée de l'influence de la société civile, des médecins, d'un certain nombre de chercheurs qui critiquent de plus en plus la dangerosité de certains aliments?
Oui, en France en tout cas, et dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est une évidence. Enfin, il y a un certain nombre d'accusés qui ont fini par arriver dans le box des accusés. Le tabac, évidemment, plus personne ne saurait défendre aujourd'hui le tabac, et je crois que le sucre... Bon, en mettant quand même en avant que pour vivre, il faut du sucre. Hein. Le corps ne peut pas vivre sans sucre, mais pas n'importe lequel, pas dans n'importe quelle proportion. Je crois que ça, c'est acquis. Après, la difficulté, évidemment, c'est de faire en sorte que les moins riches, ceux qui se tournent vers les grandes surfaces pour pouvoir se nourrir, etc., soient à égalité avec les autres, ceux qui ont accès à une alimentation plus... trier, plus biologique, de pouvoir aussi être...
Une plus grande justice sociale sur l'alimentation.
Tout à fait.
Et c'est l'heure pour nous de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un rapport du Sénat consacré à l'adaptation de la France au changement climatique.
Absolument, un rapport pour le moins alarmiste puisqu'il explique que la France n'est absolument pas préparée au choc climatique qui vient. Dans un document d'un peu plus de 150 pages, les sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves Roux dressent un bilan sévère des politiques mises en œuvre pour lutter contre l'inéluctable. Il faut dire que l'adaptation est bien souvent le parent pauvre, voire la dimension oubliée de la lutte contre le réchauffement climatique. Comme l'explique l'un des auteurs du rapport, les politiques d'adaptation souffrent trop souvent d'un déficit de reconnaissance et de légitimité dans le débat et les politiques publiques. Ainsi, quand on pense aux politiques de lutte contre le réchauffement climatique, on se limite souvent à la seule dimension de l'atténuation, comme par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La question de l'adaptation renvoie quant à elle à une réalité plus lointaine qui peine à mobiliser les foules.
Le problème, Arjuna, c'est qu'il est trop tard désormais pour se préoccuper uniquement de l'atténuation du changement climatique.
Oui, il ne s'agit plus d'éviter la catastrophe, mais bien de se préparer à l'inéluctable. Comme l'expliquent les auteurs du rapport, le proche avenir climatique est déjà écrit. La question est maintenant de savoir si nous serons capables de prendre les mesures suffisantes pour nous préparer, nous adapter, nous protéger. Et pour l'instant, la mobilisation est loin d'être suffisante. Elle est même embryonnaire, selon les auteurs, pour la grande majorité des collectivités territoriales et des filières économiques. Il faut dire que l'État lui-même est loin d'avoir pris la mesure du changement. Le plan national d'adaptation, adopté en 2011 et en 2018, n'est qu'un texte non normatif qui se contente de fixer un cadre d'amélioration. Les sénateurs pointent donc la nécessité de mener un véritable accompagnement politique et financier en se concentrant notamment sur les territoires les plus vulnérables comme les Outre-mer ou les zones littorales. Ils donnent également un certain nombre de pistes pour adapter l'ensemble des territoires, de la lutte contre l'artificialisation des sols à la restauration des zones humides en passant par la mutation vers une agroécologie.
Mais les sénateurs ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme.
Non, depuis plusieurs années, les rapports d'ONG et d'experts se multiplient pour mettre en garde contre les risques de l'inaction. Les experts du GIEC eux-mêmes ont publié l'année dernière un rapport qui explique en substance qu'il reste à l'humanité 10 ans pour tout changer. De nos modes de consommation à nos modes de production, en passant par l'organisation même de nos sociétés, 10 ans pour faire la différence et éviter l'apocalypse annoncée. Pourtant, face à cette mise en garde sans précédent, l'ordre du monde semble tranquillement suivre son cours. Nous parlions récemment des perspectives d'exploitation des hydrocarbures au Grand Nord, permises ou plutôt causées par le changement climatique. Mais en réalité, pas un jour ne passe sans que les intérêts économiques ne s'imposent à l'impératif écologique. Heureusement, face à l'inaction de leurs représentants, les citoyens et notamment les plus jeunes prennent conscience de la nécessité de changer et se mobilisent pour combattre cette indifférence programmée. Un hasard du calendrier, alors même que nos sénateurs se transforment en lanceurs d'alerte, d'autres citoyens moins chanceux se retrouvent face à la justice pour avoir dénoncé l'inaction de nos dirigeants. Plusieurs militants non violents ont ainsi été poursuivis pour vol en réunion et par ruse après avoir décroché des portraits officiels du président de la République, une action censée symboliser le vide de l'action climatique du chef de l'État et du gouvernement et qui pourrait coûter jusqu'à 2000 euros à ses militants de la cause écologique. Verdict le 12 juin prochain.
Avec Beach House, Walk in the Park. Merci beaucoup Bernard Pellegrin et Annie Thébaumoni de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'est la fin de cette série consacrée à l'économie de l'alimentation. Demain, on se demandera comment réussir un mariage entre deux entreprises. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.